Parole d'auteur. Une émission de Monique Fauché.
Tourner vers l'avenir avec ses universités prestigieuses, 140 000 étudiants, son industrie aéronautique florissante, ses centres de recherche pointus, dont ceux consacrés à la recherche spatiale. Toulouse, ville jeune et dynamique, voit avec son agglomération sa population augmenter de 19 000 habitants, ou 13 000 suivant les sources, chaque année donc. Mais Toulouse est aussi attachée à son passé et à ses traditions, de la brique au rugby, de l'académie des jeux floraux au cassoulet, de ses ruelles mystérieuses à ses vestiges romains. Tout nous incite à nous pencher sur son histoire qui s'étale sur 2000. C'est ce que nous propose un ouvrage de 791 pages dans lesquelles sont intervenus de nombreux spécialistes, historiens, et ceci sous la houlette de Jean-Marc Olivier et Rémi Pêche. Il s'intitule « Histoire de Toulouse et de la métropole ». Il est édité chez Privat et j'ai le plaisir d'accueillir autour de cette table Agathe Roby, Jean-Marc Payet, Rémi Pêche, Pascal... Jean-Marc Payet, justement, n'est pas encore arrivé, on l'attend. Rémi Pêche, Pascal Julien et Jean-Marc Olivier, merci d'être venus et d'être à cette table. Voilà, alors bonjour. Alors, ma question, je vais m'adresser soit à Jean-Marc Olivier, soit à Rémi Pêche, puisque vous avez dirigé cet ouvrage. Pourquoi, justement, un nouveau bouquin? Parce qu'il y en a pas mal, quand même.
Oui, alors... Je dis quelques mots et Rémi Pêche complétera parce que lui est le garant de l'histoire dans le temps long à Toulouse. Moi, ça ne fait que 20 ans que je suis là.
Grand-père.
Ouais. Non, je n'ai pas dit ça, Rémi.
Mais écoutez, moi, à la radio, c'est pareil.
Hein. Oui, bon, donc, voilà. Donc y a, en fait, c'est une tradition bien ancrée chez Privat où il y a une collection Histoire des villes. Ouais. Et tous les 20 ans, à peu près, il y a un renouvellement. Donc, il y a eu celle coordonnée par Philippe Wolff, celle coordonnée par Michel Taillefer, et maintenant, il y a celle de Rémi Pêche et moi-même.
En fait, si vous voulez, des histoires de ville, il y a toujours un grand manque, c'est d'actualiser. Parce que si quelque chose qui est publié en 2000, entre 2000 et 2020, il se passe plein de choses.
Et oui, et hors antenne, vous avez dit qu'il y avait encore des découvertes dans Toulouse.
Ah ben oui, et surtout des découvertes. Alors là, on remonte le passé et on trouve des vestiges... romains et pré-romains, grâce aux fouilles qui sont faites pour l'urbanisme et pour le développement actuel de la ville.
Ah oui,
et
alors...
c'est pour ça il faut rendre compte de cela, parce qu'on ne peut pas se limiter aux recherches qui ont été faites il y a 40 ans ou 50 ans.
Bien sûr.
Donc je crois que pour ça, il fallait qu'on réalise à la fois une continuité avec le travail qui a été fait par nos prédécesseurs, et moi je crois qu'il faut... rendre hommage à Philippe Wolff, Jacques Godechaux et surtout Michel Taillefer qui nous a quittés malheureusement prématurément et qui ont défriché beaucoup de terrain. Mais depuis, il y a eu beaucoup de thèses, de mémoires, etc., que l'on peut synthétiser. Et pour cela, on a eu recours à des jeunes chercheurs qui sont représentés ici par Agathe.
Agathe Roby, voilà. Donc, dans cet ouvrage, vous êtes nombreux à être intervenus, j'ai l'impression.
Oui, nous 17. Sommes 17, plus un chapitre qui a été repris en partie à partir d'un texte de Michel Taillefer. Donc, on peut dire qu'on est 18, quelque part.
D'accord. Alors, Rémi Pêche, vous avez parlé justement de cette période, la première période qui est évoquée, dans cet ouvrage. Et malheureusement, Jean-Marc Payet n'est pas là. Vous pouvez nous dire un petit mot quand même de cette période que je trouvais aussi peu connue des Toulousains.
Il ne faut ni exagérer l'importance de Toulouse. C'est vrai que par rapport à Narbonne, qui a été la première cité romaine fondée sur le territoire de la Gaule, ou même par rapport à Bordeaux, qui avait pris un essor très rapide au 1er siècle après Jésus-Christ, Toulouse, souvent, a été considérée presque comme quelque chose de secondaire. Mais en réalité, et c'est pourquoi on lui a conféré le titre de Palladia Tolosa, et en faisant référence à la déesse... Athéna. Avait une certaine importance, dont témoignent encore aujourd'hui des vestiges archéologiques importants, un amphithéâtre, un théâtre qu'on ne voit pas, mais enfin on sait où il est, et une enceinte romaine dont on voit quelques morceaux éloquents. Et puis, je vous dis, on a défriché beaucoup de mystères grâce aux fouilles archéologiques récentes. En particulier, on a trouvé un gisement énorme d'amphores sur l'emplacement de Niel, enfin du site Niel, qui était une caserne qui est devenue le rectorat et d'autres sites, qui montre que Toulouse était une plaque tournante du commerce.
Mais parce que, en fait, l'emplacement était quand même idéal. Vous avez parlé de Narbonne, vous avez parlé de Bordeaux, mais là, entre les deux, c'était un nœud, je dirais,
non seulement,
pour le
commerce.
Et puis,
il y avait l'arrivée des ressources pyrénéennes, en particulier des minerais et de l'or.
Et de l'autre...
D'où la légende de l'or des Tectosages, qui est une légende, mais qui n'empêche, témoigne de la richesse de Toulouse à cette époque. Et il y avait aussi, évidemment, la retombée du Massif central, du Tarn, de l'Aveyron actuel, qui était lié à Toulouse, en quelque sorte.
Oui. Alors, moi, ce que j'avais cru comprendre, c'est que les premières populations s'étaient installées là, parce qu'il y avait des guets, dont le Basacle. Alors, on parle des Tectosages, mais il y a une population dont j'ai trouvé le nom amusant, je ne sais plus lequel. Vous allez peut-être m'aider, non ? Ça ne vous dit rien ? Je l'ai noté quelque part. Tectosages, non, parlez
pas. Les Volques.
Non, encore un autre nom. Il y avait eux, et puis il y a comique dedans. Il y a comique dedans. Il y a le mot comique.
Arrêts comiques, mais ils ne sont pas ici, les arrêts comiques, ils sont le long de la Méditerranée.
Ils sont mentionnés.
Attention.
Ils sont mentionnés.
Ils sont mentionnés, oui, mais ils ne sont pas autochtones ici.
Ah, je l'ai lu, hein. Je vous assure que je l'ai lu.
Non, mais sans doute qu'ils ont eu commercé avec leurs copains, les Volques Tectosages, mais ce ne sont pas les arrêts comiques. Non, ils ne sont pas ici.
D'accord. Alors,
il y a les Élysiques en Narbonne aussi.
Alors, ce qu'on voit aussi, c'est qu'en fait, il y a une multiplicité de sites, hein, des nécropoles, en fait, qui ont été fouillées, probablement. Et en définitive, la capitale, est-ce qu'il y aura une capitale de la région ? Ça sera Saint-Roch, d'abord, ça aussi, vous voyez. Moi, qui suis vraiment une béotienne, je ne savais pas que Saint-Roch avait pu être le centre à cette époque-là.
Oui, mais d'ailleurs, on le comprend très bien quand on voit qu'ensuite les Visigoths ont choisi Toulouse comme capitale, alors là vraiment, de leur royaume qui s'étendait jusqu'en Afrique, en tout cas jusqu'en Andalousie.
Ouais,
donc
oui.
Les Visigoths n'ont rien inventé, ils ont suivi le sillon des Romains. Et donc... il est certain que Toulouse avait une importance admise et étalonnée avant même qu'ils arrivent.
Oui, et alors dans cet ouvrage, on parle beaucoup donc du commerce. On voit que le site est quand même parfaitement bien placé. Et on parle de métissage. En fait, il y a des rencontres avec l'Espagne en particulier. Et puis beaucoup de gens arrivent.
Oui, mais c'est une caractéristique de Toulouse, c'est d'avoir toujours assimilé des nouveaux venus, des fois sur un plan qui n'était pas toujours harmonieux, mais enfin, au bout d'un certain temps, ces nouveaux venus deviennent des Toulousains et à part entière et participent à la vie de la cité et à son progrès.
Alors, quittons les Tectosages et parlons un peu des Romains. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? En l'absence de votre collègue,
vas-y.
Ah, c'est non, dur, hein, c'est dur.
Donner la parole.
Quand il arrive.
Oui, on pourra peut-être.
On en parlera, d'accord. Voilà. Bon, alors, on va faire l'impasse de l'époque romaine, de Toulouse romaine, et on va peut-être parler, on va arriver au Moyen-Âge. Là, on fait un grand bond, hein. Moyen-Âge, alors c'est Agathe Roby, la spécialiste en l'occurrence, oui, qui va nous parler de ça. Alors moi, ce que j'ai découvert, c'est que, en définitive, alors que du temps des Romains, on construisait avec, je dirais, du dur, de la pierre, peut-être des briques, je ne sais pas, mais au Moyen-Âge, on est revenu au bois, enfin, ou venu, je ne sais pas, au bois et à la terre. Quelque chose d'infiniment périssable et...
Lors du Moyen-Âge, vous voulez dire, oui, au début, oui, il y a une perte, mais ça c'est global, dans le C'est global, il y a une perte de technicité, et c'est vrai que l'archéologie a révélé que on construisait plus en terre, en bois et en torchis, en tout cas pendant un temps, et puis après on va repasser au milieu du Moyen-Âge à des constructions plus
solide,
imposantes.
Et solides. Moins inflammables.
C'est ça.
D'accord.
Ou encore que non, puisqu'il y a le fameux incendie de 1463 quand même qui ravage les deux tiers de Toulouse, puisque
et
la majorité des habitations étaient en bois et en torchis. Hein.
D'accord. Alors, ce que j'ai découvert aussi, bon, quand on nous parlait de Clovis à l'école, on ne disait pas quand même qu'il était infiniment méchant. Les Francs sont arrivés donc vers 508 et ils ont énormément détruit, en tout cas chez nous, ici.
Alors là, c'est vrai que là, ce n'est pas du tout ma spécialité non plus.
On va
donc je vais pas
alors, Agathe, n'ayez crainte, on va parler
oui,
des
oui.
femmes.
Non, mais c'est juste que je ne connais pas du tout.
Chronologiquement,
c'est très très loin.
Oui.
Effectivement, les Francs, avec Clovis, ont conquis le comté. Ont conquis Toulouse et chassé les Visigoths. Et c'est une période de l'histoire de Toulouse qu'on connaît très peu, puisqu'on a très peu de sources. Et les fouilles archéologiques qui ont été menées, là je parle sous couvert de Rémy Pêche peut-être, à cette époque-là, n'ont pas révélé beaucoup de choses. En tout cas, ont soulevé autant de questions que de réponses.
Oui, alors ce que j'ai lu, c'est qu'il y avait peu de sources. Il n'y a pas d'écrit, finalement.
Non,
pas de récit.
C'est tout le problème du Haut Moyen-Âge. Hein,
oui,
c'est qu'il faut faire avec des sources qui sont très questionnables, des
récits... Comment on peut l'expliquer, ça? Parce que les Romains écrivaient.
Mais c'est des questions de conservation, je pense aussi. On a perdu beaucoup. Et les Romains écrivaient, mais les Romains écrivaient... On n'a pas tant que ça non plus.
Il y a
des parchemins. Et puis alors, il y a le support aussi. Hein. Le parchemin se conserve beaucoup
quand même
mieux que le papyrus. Donc, on a conservé très peu de choses. Et puis, ce sont des récits qui sont beaucoup plus tardifs. Donc, qu'il faut forcément interroger et regarder avec circonscription. Je ne vais pas y arriver, pardon.
Bon, d'accord. Alors, ce dont on pourrait parler, puisque je sais que ça a été l'objet de votre thèse, on peut parler des femmes, de la place des femmes. Votre thèse, exactement, ce n'est pas cela, mais on y arrivera. Mais la place des femmes, moi j'ai toujours entendu dire, parce qu'il y a des écrivains qui ont écrit même des romans là-dessus, qu'au Moyen-Âge, les femmes avaient un rôle important.
Tout à fait. On pense que les femmes au Moyen-Âge étaient réduites au domicile, mais ce n'est pas du tout vrai. Les femmes travaillaient. Les femmes avaient une place à travailler auprès de leur mari, dans les commerces. Et le statut des femmes s'est un peu détérioré à la période moderne, où on note qu'elles perdent un peu de leur liberté. Voilà. Après, moi, spécifiquement, c'est vrai que j'ai travaillé plus sur la prostitution, qui est c'est une catégorie de femmes un peu à part, puisqu'elles sont traitées d'une manière complètement différente.
Et on sait que c'est le plus vieux métier du monde, mais pourquoi la prostitution au Moyen-Âge? Est-ce qu'il y avait quelque chose de particulier?
Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'à cette époque-là, la prostitution est encadrée de manière publique, c'est-à-dire que les capitouls encadraient la prostitution. C'est-à-dire qu'à partir du XIVe siècle, on va voir la mise en place de bordels publics, un peu à l'image des maisons closes du XIXe siècle, sauf que le but n'est pas du tout le même, puisque les maisons closes ont été instaurées pour lutter contre la syphilis. La syphilis n'était pas encore apparue sur le continent à cette époque-là. Et donc, l'idée, c'est vraiment de réserver une place à la sexualité extra-conjugale en ville pour éviter que la débauche ne se propage à l'ensemble du tissu urbain. Donc les capitouls vont acheter des établissements.
C'est la prérogative des capitouls.
Tout à fait, avec le soutien de la royauté et de l'Église. Et c'est un phénomène qui s'observe beaucoup, de manière beaucoup plus accentuée dans le sud de l'Occident, c'est-à-dire en Espagne, en Italie et dans le sud du Royaume de France. Mmh. Voilà, donc un phénomène proprement méridional.
Oui, et d'après ce que j'ai lu, les mariages... Était entre personnes jeunes, entre 15 et 16 ans.
Voilà, c'est ça. On se marie aux alentours de 15-16 ans. Le mariage, c'est un contrat, économique. Hein. On se marie, ce ne sont pas des mariages d'amour. On peut faire des contrats, des dots à partir de 7 ans. Et le mariage, se fait aux alentours de 15-16 ans. Et on se marie avec notre rang social, évidemment.
Oui, voilà. Il n'y avait pas de mixage social?
Si, mais à la marge, vous pouvez avoir, ça dépend des périodes, peut-être à la fin du Moyen-Âge, on a des riches marchands qui vont, on a la noblesse de robe qui va un peu se mélanger avec l'aristocratie, mais non, on ne va pas avoir un commerçant qui va se marier avec une noble. Ça ne se fait absolument pas.
Bon, alors, écoutez, pour ce qui est du Moyen-Âge, on a des tas de choses à découvrir. De toute façon, il faut inciter nos auditeurs à lire cet ouvrage. Et on apprend énormément de choses. Mais on pourrait parler d'une autre époque. Alors, je me tourne vers qui, là? Vers l'artiste.
Les artistes.
Alors, donc, dans votre ouvrage, il y a en particulier... on voit des chapitres consacrés à certains thèmes. Alors, on me fait signe de l'autre côté du studio qu'il faut qu'on fasse une pause musicale. Elle va être courte, je vous rassure.
Qu'il est loin mon pays, qu'il est loin. Parfois au fond de moi se ranime l'eau verte du canal du Midi et la brique rouge des minimes où mon pays, ô Toulouse. Je reprends l'avenue vers l'école. Mon cartable est bourré de coups de poing. Ici, si tu cognes, tu gagnes. Ici même les mémés aiment la castagne. Ô mon pays, ô Toulouse, un torrent de cailloux roule dans ton accent. Ta violence bouillonne jusque dans tes violettes. On se traite de con à peine qu'on se traite. Il y a de l'orage dans l'air. Et pourtant, l'église Saint-Sernin illumine le soir d'une fleur de corail que le soleil arrose. C'est peut-être pour ça, malgré ton rouge et noir. C'est peut-être pour ça qu'on te dit ville rose. Je revois ton pavé, ô ma cité gasconne. Ton trottoir éventré sur les tuyaux du gaz. Est-ce l'Espagne en toi qui pousse un peu sa corne? Serait-ce dans tes tripes une bulle de jazz? Voici le Capitole, j'y arrête mes pas. Les ténors enrhumés tremblaient sous leurs ventouses. J'entends encore l'écho de la voix de papa. C'était en ce temps-là mon seul chanteur de blues. Aujourd'hui tes buildings grimpent haut. À Blagnac tes avions sont plus beaux. Si l'un me ramène sur cette ville, pourrais-je encore y revoir ma pincée de tuiles? Ô mon pays, ô Toulouse, ô Toulouse.
Parole d'auteur. Monique Fauché.
Voilà, nous retrouvons nos auteurs. Il s'agit de l'histoire de Toulouse et de la métropole, édité chez Privat, sous la direction de Jean-Marc Olivier et de Rémi Pêche. Plusieurs auteurs, de nombreux auteurs, ont participé à cet ouvrage qui est dense, qui est passionnant. Alors, je ne veux pas que nos auditeurs soient rebutés par l'épaisseur de ce livre. Il a 750 pages, j'ai l'impression, parce qu'on peut le laisser, on peut le lire, on peut le laisser. Il y a des chapitres différents. Il y a même des encarts avec la petite histoire, ce qui n'est pas déplaisant aussi, je trouve. Donc, vous me regardez avec un air dubitatif, j'ai l'impression.
Que non.
Voilà. Et donc, il y a en particulier, il y a un chapitre sur l'aéronautique, on y viendra. Il y a en particulier un chapitre sur l'art, là, à Toulouse. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? Vaste sujet.
Le sujet est immense, mais le sujet, bien sûr, accompagne toute l'histoire de Toulouse. Pour ma part, je me suis consacré à la période moderne. On commence avec la Renaissance et puis on va finir avec les Lumières. Voilà, donc effectivement, vaste sujet. Toulouse, à la Renaissance, c'est un centre périphérique majeur. C'est-à-dire que Toulouse accompagne cette formation de l'État moderne que devient la France, où il n'y a pas encore de capitale. La capitale, au début du XVIe siècle, elle n'est pas à Paris, elle est Girovague, c'est le roi qui est capitale. Il est partout en Val-de-Loire, là où bon lui semble. Et en fait, c'est important parce que ça veut dire qu'il n'y a pas de modèle, en vérité, qui vienne de l'État avant les années 1530-40.
C'est grâce à notre éloignement. Je dis bien grâce, pas à cause.
Non, c'est en fait parce que, dans un premier temps, la cour n'étant pas fixée sur un lieu, il n'y a pas de lieu qui va véritablement incarner en lui seul la modernité. Il y a une multiplicité de lieux. Et la France va être pareillement morcelée en une multiplicité de provinces où la Renaissance va s'incarner à travers le modèle italien transformé via la cour, via l'Espagne, ou alors par expérience directe. Et Toulouse bénéficie de tous ces types de, je dirais, d'insertion de la modernité.
À commencer par l'architecture, par exemple.
Oui, le plus connu, c'est l'architecture, effectivement. Le plus connu, c'est l'architecture, et Toulouse a des jalons merveilleux de ses débuts de l'architecture nouvelle, dit-on, moderne, avec sa série d'hôtels particuliers, avec les églises qui vont être remises au goût du jour ou construites à cette époque-là. Il y a effectivement là une efflorescence extraordinaire qu'on connaît bien pour l'architecture, mais dans des travaux nouveaux, notamment lors de l'exposition Toulouse Renaissance d'il y a 2 ans, on a pu mettre en valeur aussi tous les autres arts et montrer combien Toulouse était une capitale artistique régionale qui a été le foyer d'un épanouissement des arts vers les autres grandes villes de la région qui étaient Auch, Albi et autres.
Tout à l'heure, vous avez parlé de l'influence, entre autres, de l'Italie. Et effectivement, les visiteurs de Toulouse disent « mais dans le fond, vous êtes près de l'Espagne, mais on pense plutôt à l'Italie ».
Oui, alors, toute la Renaissance française est influencée par l'Italie. Le modèle vient d'Italien. La Renaissance italienne s'est créée, est advenue au cours du XVe siècle, et puis le siècle suivant, c'est l'Europe entière qui est envahie, en quelque sorte, par cette modernité. Si on prend le cas de l'architecture, par exemple, ce qui va intéresser la clientèle, les gens qui ont de l'argent à Toulouse, et Dieu sait s'il y a de l'argent au XVIe siècle, puisque Toulouse devient richissime au XVIe siècle, ce qui va intéresser les gens, ça va être d'être à la mode. À la mode au point de vue artistique, certes, mais surtout et avant tout au point de vue honorifique. Qu'est-ce qui fait honneur à cette époque-là ? C'est de pouvoir se targuer d'un certain humanisme, même si on n'a aucune lettre, eh bien on va quand même mettre quelques portraits d'empereurs sur son portail, comme le fera Jean de Bernuit, ou quand on a véritablement des lettres, comme Jean de
Pain. Et d'avoir de beaux hôtels particuliers.
Et des hôtels particuliers qui, évidemment, sont la marque également de cette puissance de Toulouse qui devient multiple. On a parlé tout à l'heure du fait que jusqu'au Moyen-Âge, il n'y avait pas de mixité véritablement, même chez les élites. Mmh. Mais on voit bien qu'à partir de la Renaissance, la mixité se fait de plus en plus. Parce que, évidemment, tous ces grands bourgeois toulousains qui font fortune, qui se paient des hôtels particuliers, s'ils ont des hôtels particuliers aussi prestigieux, c'est qu'ils veulent faire à l'égal de la noblesse de robe. Et c'est sûr que l'installation du Parlement à Toulouse à la fin du XVe siècle a fait venir une classe de rang, un rang social très important sur Toulouse, que les bourgeois s'enrichissant vont vouloir vivre à l'égal de cela, vont en épouser les filles, et petit à petit, on va aller vers cette idée que l'honneur va être partagé par notamment les marques que sont l'architecture, mais aussi bien d'autres éléments dans la production artistique de ce temps.
Alors, un mot sur Clément Cizor, par exemple.
Ah ben, Clément Cizor, c'est un des mythes.
Tout le monde
ne
la connaît pas, vous savez. Il y a tellement maintenant de gens venus d'ailleurs à Toulouse.
Mais Clément Cizor, c'est une construction. Voilà, c'est une construction, c'est un mythe littéraire, une construction fictionnelle, oui, si on veut. C'est un mythe littéraire, c'est l'idée selon laquelle une femme aurait institué ce concours des Jeux floraux pour chaque année couronner un poète toulousain. Concours qui, effectivement, lui, est très ancien, mais en fait, mythe qui est réactualisé au XVIe siècle, justement, pour des raisons notamment politiques, où l'on va ainsi créer l'idée de cette femme ayant fait ce concours. On va même inventer un testament. Il y a toute une histoire extraordinaire qui dénote là aussi de la montée en puissance de la bourgeoisie toulousaine à travers les édiles de la cité. C'est la magistrature toulousaine qui va mettre en avant ce mythe pour se donner là encore une importance dans un domaine qui est tout à fait essentiel à cette époque-là, c'est-à-dire les lettres.
Alors justement, une question à la Renaissance, pendant cette période, on parlait français ou occitan?
Alors, pour ce qui est de parler, on parlait occitan. Mais c'était un occitan déjà très mélangé. C'était mélangé avec des mots de français notamment, il y a de tout. Alors le parler, on n'a pas de témoignage exact du parler. Ce qu'on a, c'est les écrits. On voit quand même le français arrive relativement tôt dans les écrits. On sait très bien qu'il y a l'édit de Villers-Cotterêts, de François Ier, qui va obliger à rédiger en français tous les actes administratifs après les années 1530. Mais déjà, dès les années 1500-1510, beaucoup d'actes sont déjà en français ou en une espèce de roman, c'est-à-dire un langage qui mêle à la fois et du français et de l'occitan et du latin.
Voilà. Mais les textes concernant les marchés, par exemple, continuent d'être rédigés en occitan. Avant, tant que
c'était pour la
populaire,
population.
Oui, les textes, les marchés, mais assez vite, les notaires passent au français complet à partir des années 1520. Avant les années 1530,
oui,
l'essentiel des textes sont en français,
dans
le notariat toulousain.
Oui. Les arrêts du Parlement sont en ancien français.
Oui, très tôt. Très tôt.
Voilà. Est-ce qu'ils partaient à l'extérieur aussi, peut-être, non? Ils n'allaient pas jusqu'à Paris, ces textes?
De la correspondance, oui, bien sûr, la correspondance. Mais toute la correspondance qu'on a, elle est en français de cette époque-là, du XVIe siècle, bien sûr. Et puis, au-delà de Paris, je veux dire, là, les humanistes toulousains, comme Jean de Pin, correspondent avec les plus grands humanistes de l'époque, notamment avec Erasme.
Mais il y a quand même la poésie. Bon, c'est pas pour rien que Goudouli est toujours là.
L'Académie
au milieu
des Jeux Floraux. Mais oui, bien
mais
sûr.
Mais Goudouli, nous sommes déjà au XVIIe siècle.
D'accord,
Goudouli,
mais pour raison.
Brandi, là, vous nous faites aller très vite.
Brandi encore la bannière.
Je le fais pour mon
prochain. Vous savez, il paraît qu'on pose la question aux Toulousains, enfin aux habitants de Toulouse, sur la statue qui se trouve.
Goudouli, oui.
Non, mais ils savent pas que c'est Goudouli.
C'est un totem.
Sorte.
Non, c'est M. Wilson.
Oui,
il est au milieu de sa
place.
Oui,
voilà, exactement. Exactement. Oui, alors.
Et ils n'ont pas lu l'inscription qui est derrière, qui est un vers de Goudouli.
Oh,
nous irrigons de Toulouse, mais plaï de mantenir ce langage bel.
Alors, vous pouvez.
Né à Toulouse, ça me fait plaisir de maintenir son beau langage. Ma carrière, ajoutais-je.
Oui, alors ça, c'est de vous. Hein.
Oui.
Bon, qu'est-ce qu'on peut dire du le 12e siècle? Bon, on va passer, hein, on va passer.
Le
12e, on verra moyen.
Non, non, pardon, je me trompe. On va changer d'époque entre 1680 et 1750. À un moment donné, on parle des Lumières. Qu'est-ce qu'on peut dire?
Oui,
on non, peut... là, je sais trop.
Non, mais on peut parler un tout petit peu du 17e, parce que c'est quand même une période majeure. Là,
oui, ben c'est
plus
le 17e, c'est celui dont je voulais vous parler. C'est
voilà,
moi
oui.
Me... oui.
Oui,
oui. Oui, oui, oui. Alors, dites-moi tout.
Ben, disons qu'après les délices de la Renaissance qui envahissent Toulouse et qui effectivement sont toujours lisibles dans l'architecture et visibles, le 17e est une période aussi extrêmement riche. Extrêmement riche, d'une part, parce que la ville reste, contrairement à ce qu'on a pu trop souvent dire, la ville reste riche. La ville, surtout, est puissante.
Mais il y a des disettes, quand même.
Oui, mais...
Comme partout.
Oui, comme
je suis
partout.
Désolé, c'est comme aujourd'hui. Hein. Il y a des pauvres, mais il y a des riches.
Non, mais quand je dis des disettes, ce sont des famines.
Oui, mais les famines touchent les pauvres, elles ne touchent pas les riches, elles ne les déciment pas.
Oui, hein. Oui,
ce qui décime les pauvres comme les riches, ce sont les pestes plutôt. Et ça, la peste de 1630,
elle est égalitaire.
1628-32 à Toulouse, elle est égalitaire et elle va faire le vide. Mm. Beaucoup. Enfin, certains s'enfuient, comme l'archevêque et autres vont bien se protéger. Et la meilleure façon de se protéger de la peste, c'est de fuir. Mais tout le monde n'en a pas les moyens au XVIIe siècle.
Exactement.
Voilà. Donc oui, c'est une ville, Toulouse, c'est une ville qui reste extrêmement puissante, notamment grâce à son Parlement. Et ça, ça va avoir un rôle majeur dans le XVIIe siècle. Ça a déjà eu un rôle majeur à la fin du XVIe avec les guerres de religion et Toulouse qui est au centre de ces guerres de religion dans le sud de la France et donc qui se trouve au centre de la succession au trône. C'est quelque chose d'important. Henri de Navarre, qui devient Henri de France, qui va devenir roi de France, et la Navarre, qui va annexer la France à la fin du XVIe siècle et au début du XVIIe siècle. Avec Henri IV, donc, c'est Henri de Navarre qui devient Henri IV, et Toulouse va se trouver en quelque sorte au centre de ces éléments-là, avec une ville qui va donc mener un combat de la contre-réforme. Parce que là, c'est là que la question religieuse va devenir prégnante. Question huguenote du XVIe siècle avait tourné en guerre civile, puis en guerre de succession du trône. La succession étant faite, maintenant, Toulouse occupe le rôle de fer de lance de la contre-réforme dans le Midi. C'est à partir de Toulouse que l'on va conquérir et reprendre les places fortes autour de la ville, les places fortes protestantes que sont Montauban, notamment l'île Jourdain, Castres. Et ceci va se faire petit à petit, sous Louis XIII notamment, donc par les armes d'une part, mais aussi, il y a toute la contre-réforme par les arts. Mmh. Et cette contre-réforme par les arts, Toulouse va en être au centre, avec...
De quelle manière, là ?
Ben, avec une multiplicité d'ateliers. Des ateliers de menuisiers, de peintres, de sculpteurs qui vont abreuver toute la région de décors, notamment d'églises. Beaucoup d'églises ont été détruites ou endommagées par les guerres, par les troubles civils et religieux, par l'iconoclasme protestant. Il faut reprendre tout ça, il faut remettre au goût du jour. Et là, Toulouse est un atelier. Toulouse est un atelier pour l'ensemble de la région et les artistes toulousains, là, pendant un demi-siècle presque, vont fournir des retables, des tabernacles, des hôtels, mais par centaines, pour le diocèse de Toulouse, mais pour tous les diocèses suffragants. Et ils sont nombreux. Hein, et ça va aller d'Alain de Solmignac pour tout le Quercy, bien sûr, à Berthier pour tout le diocèse de Rieux et autres qui vont passer eux-mêmes les évêques, hein, des commandes dans Toulouse, voire tous les prêtres, curés et autres qui vont renouveler le mobilier religieux.
Donc ça accroît notre patrimoine, en même temps ça fait travailler du monde.
Ça fait travailler du monde, on a des corporations, confréries d'artisans extrêmement prospères à Toulouse, et évidemment, il est évident que ce mouvement-là qui donne à la fois, il y a beaucoup de commandes, il y a beaucoup d'argent pour ça, hein, la religion en danger. Évidemment, il y a beaucoup d'argent, et donc beaucoup d'argent pour ça, beaucoup de commandes, et énormément d'artisans viennent de l'extérieur et vont aussi enrichir les capacités même des artistes de la ville, et il va en ressortir quelques personnalités marquantes qui vont être importante dans la seconde moitié, elle, du XVIIe. Et en fait, tout ce mouvement va aller vers des personnalités marquantes, artistes, sculpteurs, peintres, architectes, dans la seconde moitié du XVIIe siècle, et une volonté d'institutionnaliser tout cela, qui se fait jour à la fin du XVIIe, création d'écoles de dessin, et puis qui va aller vers le XVIIIe, avec de cette école de dessin, le passage à la création de l'Académie royale au XVIIIe siècle.
Il y a eu quand même, à un moment donné, il me semble, un passage à vide entre 1789, enfin c'est au moment de la Révolution finalement. Là, il n'y a plus rien eu, si.
Alors, les périodes révolutionnaires sont difficiles à étudier, bien sûr, mais évidemment, la création va être un petit peu en retrait, mais on ne peut pas non plus dire qu'il n'y a rien eu, parce que c'est justement le moment où l'Académie de Toulouse va en quelque sorte donner ses fruits. C'est-à-dire que, soyons clairs, au cours des siècles, Toulouse n'a jamais produit de grands artistes. Voilà. Contrairement à d'autres villes, comme Lyon, par exemple, on n'a pas d'artistes majeurs qui soient sortis de Toulouse, qui aient eu une carrière nationale, voire internationale.
Et pourtant,
à la fin du XVIIIe siècle, eh bien, l'Académie de Toulouse va produire un certain Ingres. Voilà. Et c'est vraiment la personnalité qui, en quelque sorte, sort du lot dans ce, je ne dirais pas misérabilisme, mais dans cette manière, on dirait, Toulouse n'a jamais été une ville qui est brillée à l'extérieur.
Oui, à l'extérieur.
Par
oui,
ses élèves.
Riva, c'était quand même quelqu'un.
Henri, Henri Martin, mais plutôt
que Toulouse. Ah oui, mais là, nous.
On a changé.
Oui, voilà, nous, Henri Martin, nous allons au-delà. Mais malheureusement, oui, tu as raison, Rémi. Toute cette école.
Alors, Rémi Pêche qui devrait se rapprocher.
Oui, oui. Rémi qui nous parle de Falguière, mais là, nous sommes carrément dans le plein 19e.
Oui, on a changé l'époque.
Il est effectif que s'il y a bien un art qui a considérablement. Évoluer à Toulouse, c'est celui de la sculpture. Là, si Toulouse est marquée par un art plus que par les autres, c'est celui de la sculpture. De la sculpture
antique.
Mais
à cette époque-là, déjà.
De la sculpture antique.
On entend toujours de bons sculpteurs.
Déjà, aller au musée Saint-Raymond, la sculpture antique toulousaine que l'on connaît par les villas suburbaines romaines comme celle de Marthe Tolosane, elle est extraordinaire. Elle fait quand même du musée de Saint-Raymond l'un des plus beaux musées antiques de France. Cette sculpture-là, qui ensuite se continue à la période romane par une sculpture qui quand même est considérée comme la plus belle. Je veux dire, il n'y a pas de plus beau en matière de sculpture romane que l'exposé des cloîtres toulousains à travers les chapiteaux qui sont au musée des Augustins. La sculpture romane, la sculpture gothique d'extraordinaire facture avec le maître de Rieux, là encore au musée des Augustins. Puis à la Renaissance, là encore, une efflorescence de la sculpture, de très grands noms de la sculpture. 17e, je vous ai parlé de cette époque de la contre-réforme, elle est portée par de très beaux sculpteurs. On avait fait en 97 une exposition justement consacrée uniquement à ces sculpteurs toulousains. Le 18e, on a quand même un élève de tout cela qui est Marc Arcis, qui va partir pour Versailles, qui fait ses armes à Versailles, sur les chantiers de Versailles à la fin du XVIIe, et qui va donner les chefs-d'œuvre que sont, par exemple, l'ensemble de Saint-Jérôme, les sculptures de l'église Saint-Jérôme, ou le baldaquin de Saint-Cernin-de-Toulouse, et puis les sculpteurs de l'Académie, pour arriver au XIXe, alors là, à une école de sculpture.
Il ne faut pas oublier François Lucas, qui était un très grand sculpteur.
François Lucas.
Mais attendez, est-ce qu'il restait, ces hommes, est-ce qu'ils restaient à Toulouse, ou est-ce qu'ils partaient, comme le font à Paris?
Par exemple, Marc Arcis part à Paris pendant plusieurs années, puis revient finir sa carrière sur Toulouse.
Lucas, il n'a pas bougé.
Lucas n'a pas bougé, la famille Lucas, puisqu'ils sont de père en fils, sculpteur sur Toulouse, voilà. Et après, on en arrive donc, alors là, au XIXe siècle, où effectivement, avec Falguière, Marqueste et autres, on a une école de sculpture de tout premier plan.
Et puis au XXe, Parler, et ça continue. Il y a encore.
Alors ça, c'est aussi marqué par le fait du matériau. Parce que Toulouse est une des rares villes de France qui a eu la chance de faire bénéficier ses sculpteurs de marbre blanc. Et ça, ce n'est
qui
venait
des Pyrénées.
Qui venait des Pyrénées. Qui venait pour l'époque antique des carrières de Saint-Béat, qui restent en exploitation continuellement à l'époque du Moyen-Âge, qui sont renouvelées encore au XVIIe siècle par la volonté du roi, et qui vont au XIXe siècle, alors là, connaître une expansion incroyable, puisqu'une grande partie de la statuaire parisienne du 19e siècle est en marbre blanc des Pyrénées.
C'est amusant parce que moi, je m'attendais à ce que vous parliez de la chance d'avoir de l'argile.
Ah, alors ça, c'est autre chose. Curieusement, la chance d'avoir de l'argile, c'est quelque chose qui s'est développé tardivement à Toulouse. Autant on connaît une magnifique sculpture d'argile dans le Maine, dans la Touraine. Là, on a vraiment une sculpture mancelle, par exemple, qui est absolument étonnante pour tout le XVIIe siècle. Autant à Toulouse, on a quelques représentants. Et d'ailleurs, c'est un sculpteur Manceau qui va venir à Toulouse dans les années 1650 et qui va développer à Toulouse la sculpture d'argile, la terre cuite. Mais en revanche, c'est qui va se perpétuer au XVIIIe dans la sculpture de jardin. Mais au XIXe, alors là, on a un phénomène qui est majeur, c'est effectivement la terre cuite ornementale et la statuaire qui, à travers par exemple les fabriques Virbin ou Giscard
aussi,
va couvrir Toulouse de décors et de statues.
Alors là, non, nous sommes au 19e siècle. On peut parler, là, tout à l'heure on a dit un mot, on peut parler, on déborde de... Non, vous êtes en plein. On peut y aller, mais je pense qu'avec vos collègues, nous ferons une seconde émission dans le studio voisin, s'ils sont d'accord. Oui, on peut parler aussi donc, de ces peintres. À cette époque-là, il y a quand même pas mal de peintres qui ont laissé leur nom, du moins à l'échelle toulousaine. Parce que vous avez raison, finalement, il n'y a pas eu de grands noms. Il n'y a pas eu de grands noms qui ont émergé, mais malgré tout.
Alors, il n'y a pas eu de grands noms donc, qui ont émergé, malheureusement, de l'art toulousain. Je dis malheureusement parce qu'il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits pourtant pour cela. Mais on n'est pas, à part, comme je l'ai dit, Ingres, mais qui a fait un passage rapide à l'Académie. Et très rapidement, disons que les meilleurs artistes, une fois qu'on les a repérés, on les renvoie quand même vers Paris, dans les grands ateliers parisiens, où là,
c'est... Ils sont accueillis.
Mais ça n'a plus rien à voir avec la Renaissance, bien évidemment. Les siècles suivants, le centralisme parisien est à l'œuvre, et quand on veut qu'un artiste perce, en quelque sorte, il y a deux moyens. On l'envoie en Italie pour aller faire son grand tour, et surtout aller à Rome, découvrir et l'Antiquité et les grands maîtres, et puis... Ensuite, à partir du XVIIIe siècle, c'est Paris qui devient le phare des arts. Et là, à partir du XVIIIe, on renvoie sur les ateliers parisiens.
Et le XXIe siècle, qu'est-ce que vous en diriez? Là, c'est une colle. J'ai l'impression que j'ai collé un professeur d'université.
Un grand silence coupable.
Alors, nous sommes heureux d'accueillir. Merci d'être arrivé parmi nous. On vous attendait parce que vous êtes le spécialiste de tout ce qui se passait pendant l'époque romaine. Et puis, on parlait des textos sages, mais vous allez nous en parler tout à l'heure, si vous êtes d'accord. Voilà. Merci à vous, Jean-Marc Payet, d'être arrivé. Je vous ai laissé le temps. sur ce qui se passe actuellement, non. Le musée des abattoirs, non plus. C'est nouveau, quand même.
Si on parle de musée, oui, c'est autre chose. Oui. Voilà. Disons que.
L'Académie des Jeux Floraux.
Monsieur
1323.
Oui, il savoir. Bon. C'est l'ancêtre de l'Académie des Jeux Floraux.
Oui. Non, mais les académies à Toulouse, c'est encore un autre sujet.
Oui, enfin, c'est
moi,
c'est
artistique, les académies.
Vrai.
Et quand tu as parlé de l'art 21e, je ne sais pas qui fait quoi ici au 21e exactement. En fait,
Sébastien Langlois qui nous abreuve statue en pied à qui on peut serrer la paluche à Claude Nougaro, à Carlos Gardel, maintenant il y en a d'autres.
Et puis,
bientôt à Jean-Marie Poignet.
Moi j'ai entendu dire que Toulouse était la grande ville des taggeurs.
Alors ça, au 20e, au 21e siècle, mystique. Ce qui distingue Toulouse, effectivement, c'est que très tôt, avec notamment le tagger Tilt, très tôt s'est développé un intérêt pour le graphe, et le tag, et que longtemps, grâce d'ailleurs à celui-ci, à Tilt, et encore aujourd'hui, on est resté dans un art de rue qui se veut toujours dans sa dimension subversive, et qui cherche à conserver cette dimension subversive, même si on sait que partout en France, les municipalités adorent récupérer le graphe pour en faire quelque chose de plus, disons...
clean.
Clean, oui. Non, mais clean, correct. Il n'empêche que Toulouse se distingue par son merveilleux festival, Rose Béton.
Oui, tout à fait.
Splendide festival qui donne, je dirais pas la parole, mais même pas le pinceau, mais la bombe, hein, en quelque sorte, à des tagueurs du monde entier qui viennent pour montrer leur art sur les murs de Toulouse, sur des surfaces qui sont choisies, et puis aussi, pour beaucoup d'entre eux, qui continuent à faire des actes nocturnes, hein, puisqu'au moment de Rose Béton, on voit aussi fleurir du tag véritable, non pas du tag commandé, institutionnalisé, mais du tag de la peinture de rue qui va être mise là où ils veulent, pas toujours comme ils veulent, parce que c'est souvent dans des conditions difficiles, mais qui, heureusement, conserve à cet art cette dimension hors norme, qui est quand même sa spécificité.
Alors, entre le spontané et puis l'officiel, il y a un site original moi, que j'ai découvert par hasard à Montaudran, en cherchant les usines Latécoère et les grandes halles de Pierre-Georges Latécoère. Juste à côté, les associations de taggeurs ont été autorisées à s'exprimer autour des halles Latécoère.
Il y a plusieurs endroits.
Il y a une journée porte ouverte chaque année.
Tout à fait.
Journée porte ouverte chaque année, avec effectivement, là c'est bluffant, pour les gens qui ne connaissent pas cet art, c'est quelque chose de bluffant, parce que la surface dédiée est immense, ce sont ces grands hangars incroyables, en béton, en métal, déjà les hangars par eux-mêmes, ces hangars
Sur les murs extérieurs,
sont extrêmement intéressants,
ont été sauvés de justesse.
Ça donne des surfaces de 10 mètres de haut par 15 de large,
là
c'est extrêmement, extrêmement spectaculaire.
Merci messieurs. Alors je pense que là, ben voilà, nous avons fait le tour. Vous auriez peut-être des choses encore à nous raconter, mais nous allons terminer cette heure et je propose à nos auditeurs de nous écouter, d'écouter cette émission la semaine prochaine, puisque nous allons continuer l'émission en parlant toujours de cet ouvrage, mais avec d'autres intervenants qui sont d'accord pour continuer l'émission. Voilà.
Bien sûr, on est d'accord.
Mais puisqu'il y a
Jean-Marie est venu, donc
on va le présenter.
Mais dans la deuxième,
dans la seconde partie, il viendra. Voilà, vous pouvez rester.
Mais c'est tout de suite. Hein, c'est tout de suite.
Pas dire au micro,
tu peux rester.
Il y avait une manifestation à la gare.
Et vous étiez coincé.
C'est attardé, et donc j'ai été obligé de prendre
les voies d'étonnement. Mais vous êtes tout excusé, et en tout cas, merci d'être arrivé jusqu'à nous. Voilà, merci, et donc nous allons mettre fin à cette émission. Je rappelle à nos auditeurs qu'il s'agit d'Histoire de Toulouse et de la Métropole sous la direction de Jean-Marc Olivier et Rémi Pêche. Nous avions Jean-Marc Olivier et Rémi Pêche autour de cette table, ainsi qu'Agathe Roubi et ainsi que Pascal Julien. Et donc, nous allons vous donner la parole, messieurs, Jean-Marc Olivier et Rémi Pêche, et Jean-Marc Payet, que nous attendions avec impatience.
Jean-Marie,
décidément, aujourd'hui, là, qui va nous parler d'une période aussi qui est pleine d'enseignements. Voilà, merci beaucoup à vous.